RFI, 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Paul Lonsin-Spinelli. À la une, une pause dans les opérations de recensement en Guinée.
Le RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil, connaît des difficultés, de l'aveu même du Premier ministre de la Transition guinéen, Bahouri. Cela pourrait compliquer le processus de sortie de la transition. Le chef du gouvernement de transition assure néanmoins auprès de Jeune Afrique que les élections législatives, présidentielles et référendaires se tiendront bien cette année. En Algérie, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison ferme hier. Son avocat français dénonce une mascarade de procès. Étienne Fakaba Sissoko, libéré au Mali après avoir été condamné pour dénonciation de la propagande des autorités maliennes de transition. Et puis la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans ne se tiendra pas en Côte d'Ivoire mais en Égypte. Les jeunes joueurs ivoiriens sont donc disqualifiés.
Un recensement crucial pour le processus de transition en Guinée, mis sur pause.
C'est ce que confirme le Premier ministre de transition, Bahouri, dans un entretien exclusif au journal Jeune Afrique. Précisément, il dit reconnaître des difficultés à aller au bout du RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil. Un processus que les autorités de transition ont pourtant toujours jugé indispensable pour en tirer le futur fichier électoral, s'est dit Yansané.
Alors que Jeune Afrique lui demande où en est le processus de recensement, Bahouri répond que c'est en cours et quand le journal lui indique que ce dernier est suspendu depuis février pour raisons techniques, le Premier ministre précise sa pensée et répond finalement que le processus est en pause. Pour justifier cet arrêt, le chef du gouvernement explique, je cite, que la méthodologie pour réaliser le RAVEC s'est avérée inopérante. Il parle de nouveaux mécanismes et d'un changement de système, mais sans préciser lesquels. Il y a 15 jours déjà, RFI attestait, témoignant à l'appui que le RAVEC était suspendu depuis le mois dernier, mais également qu'il n'avait jamais débuté en dehors de la capitale Conakry depuis son lancement en novembre dernier. Malgré les délais jugés trop courts, Bahouri maintient que se tiendront bel et bien cette année les élections législatives, présidentielles et référendaires. Pour cette dernière, le président de transition, Mamadi Doumbouya, s'était engagé à dévoiler la date du référendum constitutionnel avant la fin du premier trimestre, soit lundi prochain.
Ainsi dit Yansané. C'est un dossier qui incarne la crise diplomatique actuelle entre la France et l'Algérie. Hier, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné à 5 ans de prison ferme. Il était accusé notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire, à la sûreté de l'État et à la stabilité des institutions. Son avocat, maître François Zimray, n'a pas pu assister au procès. Il dénonce un simulacre de justice. Écoutez.
C'était un procès qui n'a de procès que le nom. Parce que sa défense était interdite, que je n'ai pas pu me rendre auprès de lui, et qu'un procès dans lequel on ne peut pas se défendre, où l'avocat ne peut pas avoir accès au dossier, et le client à l'avocat, encore une fois, n'a rien à voir avec l'idée que l'on peut se faire de la justice. Cette condamnation, pour moi, trahit l'idée même de justice. Moi, ce qui me frappe, c'est que Boualem Sansal est détenu depuis 120 jours, qu'il a eu 20 minutes de procès, qu'il est condamné à 5 ans de prison pour avoir dit ce qu'il pense. Donc je suis évidemment sous le choc, comme tous ceux qui croient en la liberté et la liberté de dire ce qu'on pense et ce que l'on croit juste, à tort ou à raison, ne devrait jamais envoyer quelqu'un en prison. Nous avons saisi les Nations Unies d'une plainte pour détention arbitraire car l'Algérie a violé les traités internationaux qui consacrent les libertés fondamentales. J'appelle le président algérien à faire preuve d'humanité.
François Zimray joint au téléphone par Wely Diallo.
Voix critique des autorités maliennes de transition, Étienne Fakaba Sissoko est libre.
L'universitaire malien a quitté hier matin la prison de Kenyuroba. C'est là, à 75 km de Bamako, qu'il est resté un an en détention en raison d'un livre dans lequel il qualifiait de propagande la communication du gouvernement malien de transition. L'auteur avait été condamné en mai 2024 pour atteinte au crédit de l'État, notamment. Son avocat ainsi que des organisations de défense des droits humains n'ont cessé de dénoncer un procès politique. Et d'ailleurs, David Bachet, la bataille judiciaire d'Étienne Fakaba Sissoko n'est pas complètement terminée.
Après avoir quitté sa cellule, Étienne Fakaba Sissoko a réaffirmé son engagement pour la liberté d'expression et le débat académique. Après une année de détention, il est rentré chez lui. Son avocat, maître Ibrahim Marouf Sako, peut enfin se réjouir.
Enfin, c'est une bonne nouvelle. Monsieur Étienne Fakaba Sissoko a regagné les siens, sa femme, ses enfants, sa maman. et il va pouvoir désormais regagner ses étudiants à la faculté des sciences économiques de Bamako où est véritablement sa place.
Étienne Fakaba Sissoko avait écopé d'une année de prison ferme qu'il vient de purger, mais aussi d'une année avec sursis, une menace qui continue de planer. Le chercheur avait été condamné pour atteinte au crédit de l'État, injure et diffusion de fausses nouvelles de nature à troubler la paix publique, après la publication d'un livre sur la propagande du gouvernement malien de transition, dans lequel il estimait notamment que les vidéomènes, activistes utilisés par le pouvoir, décrédibilisaient la parole publique. Étienne Fakaba Sissoko souhaite désormais être innocenté, Maître Sakho.
On a un recours qui n'est pas épuisé. Nous pensons que tôt ou tard, justice sera faite parce que c'était des expressions d'opinion. Un travail universitaire, donc nous espérons que à l'issue de l'examen de ces recours, Étienne sera blanchi.
Outre sa peine de prison, Étienne Fakaba Sissoko avait aussi été condamné à verser 3 millions de francs CFA, près de 4600 euros, de dommages et intérêts à l'État malien.
David Baché. Une polémique au Sénégal grossit autour d'une nouvelle loi visant à interpréter celle d'amnistie adoptée l'an dernier. Ce texte, il visait à exempter de poursuites toute personne responsable de crimes et délits commis entre février 2021 et février 2024 lors de manifestations de l'opposition qui avaient fait au moins 65 morts. Le nouvel exécutif avait promis d'abroger cette loi d'amnistie très controversée lors de son arrivée au pouvoir. Mais au final, la nouvelle loi proposée ne prévoit donc pas de suppression de l'amnistie, mais une interprétation. Hier, 18 associations de la société civile ont donc demandé à ce que le Parlement reporte l'examen du fameux projet de loi. La secrétaire générale de l'Organisation nationale des droits de l'homme, Maître Habibatou Samb, explique qu'il faut trouver un consensus.
Cette loi d'amnistie, aujourd'hui, est-ce qu'on l'abroge? Est-ce qu'on la maintient comme telle? Est-ce qu'on l'interprète comme on souhaiterait le faire? Étant précisé que l'idée qui domine le plus aujourd'hui, c'est de voir cette loi d'amnistie abrogée. Donc, suspendre l'analyse de cette loi, le temps d'avoir les contours, d'avoir une idée un peu plus large sur ses éventuels effets, et surtout s'orienter vers une idée de concertation nationale pour voir comment gérer la période post-abrogation, si toutefois la loi d'amnistie venait à être abrogée, ou s'il y a d'autres alternatives pour prendre en charge les préoccupations aussi bien de la société civile que les victimes et familles de victimes.
De son côté, l'organisation Amnesty International soutient depuis plus d'un an la requête des familles de victimes des manifestations pour obtenir justice et réparation. L'organisation se dit favorable au projet de loi qui doit être examiné devant le Parlement le 2 avril pour Seydi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal. L'abrogation pure et simple n'étant pas possible, la loi d'interprétation telle que proposée par les nouvelles autorités est une bonne option pour éviter l'impunité.
Beaucoup de juristes, y compris les juristes de l'ancien pouvoir, l'ancienne garde des Sceaux, M. Stassal, ont dit à plusieurs reprises que l'abrogation n'était pas possible, que la loi d'abrogation ne pouvait pas être rétroactive, et donc ils se retrouvaient dans une situation de blocage. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut soutenir cette loi et faire en sorte qu'elle soit adoptée et que les victimes puissent avoir justice. Évidemment, les critiques pensent que ce sont les membres de forces de défense et de sécurité qui sont visés, ce qui n'est pas du tout exact. Il ne s'agit pas d'envoyer des membres de forces de défense et de sécurité à l'échafaud, il s'agit d'enquêter, de situer des responsabilités et de poursuivre les personnes qui ont commis des crimes de sang.
Un propos recueilli par Léa Lisa Westerhoff. Et puis, cette bonne nouvelle en ces temps d'inflation au Sénégal, le prix du riz va baisser de 60 francs CFA par kilo à partir du 3 avril. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Sérigné Gueye Diop, l'a annoncé hier. Le prix passera donc de 410 francs CFA à 350 francs CFA le kilo.
La puissance des mots pour consolider les liens entre Afrique et Caraïbes.
C'est la thématique mise à l'honneur en ce moment à Kigali pendant les rencontres internationales du livre francophone. Un événement qui a débuté mercredi et qui se terminera demain au Centre culturel francophone du Rwanda. Cette année donc, Lucie Mouillot, les têtes d'affiche, ce sont des auteurs caraïbéens.
Quatre auteurs caribéens mis à l'honneur à Kigali, une littérature qui a par le passé largement marqué le continent, affirme Kofi Kwaoulé, écrivain ivoirien.
Pendant longtemps, on a été initié à cette littérature à travers Césaire, à travers Fanon, Maryse Condé qui a passé une partie de sa vie en Afrique aussi. Donc oui, ce contact a toujours existé. Il y a encore des points de rencontre, des histoires communes.
Des histoires communes, de par le lien de descendance des Afro-Caribéens avec les populations africaines, réduites en esclavage et déportées vers les Antilles entre le XVIe et le XIXe siècle. Des racines évoquées dans certains écrits d'auteurs caribéens, Philomé Robert, journaliste et écrivain haïtien.
Dans Vagabondage éphémère, mon personnage Gabriel se retrouve sur le continent africain et ce voyage lui permet de faire connaissance avec sa propre africanité, avec sa propre histoire. Et donc le parcours de Gabriel a permis de faire un certain nombre de recherches sur l'histoire haïtiano-africaine. Ça a été une volonté de ma part que ça soit là.
Pour certains auteurs, les connexions entre le continent et les Caraïbes vont plus loin. Joe Souli, haïtien et américain, a ouvert une maison d'édition à Kigali.
On est ici en Afrique, on fait des connexions. On est en train de bâtir ce réseau d'écrivains caribéens et africains. C'est très important pour nos écrivains caribéens d'origine africaine.
Des échanges entre auteurs, mais aussi avec le public tout au long des rencontres du livre francophone à travers des ateliers d'écriture et des interventions dans des écoles. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
La magie de la CAN en Côte d'Ivoire n'opérera pas pour les internationaux des moins de 20 ans.
La Coupe d'Afrique des Nations U20 n'aura pas lieu dans le pays fin avril. C'est pourtant ce qui était prévu. La Confédération africaine de football a en effet confirmé ce retrait en raison de circonstances imprévues, je cite. C'est donc l'Égypte qui reprend le flambeau. Et pour les éléphantaux, eh bien, c'est une double peine. Eux qui comptaient sur l'organisation du tournoi à domicile pour rester qualifiés ne fouleront pas les pelouses égyptiennes. Et ce, à la grande déception de leur sélectionnaire, Younes Zerdouk.
C'est un sentiment qui est mitigé parce qu'en fait, on n'était pas qualifié dès le départ. On a travaillé très très dur pour saisir cette nouvelle opportunité. On a travaillé très 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 dur pour créer un groupe et ça portait ses fruits et on commence à créer quelque chose de magique. Après voilà, c'est comme ça. Si le gouvernement ou l'État s'est retiré, c'est qu'il avait des raisons. Donc ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut se qualifier. Il n'y aurait eu aucun souci. Donc un peu de tristesse, oui, pour les joueurs aussi. Je n'ai pas eu contact avec les joueurs pour l'instant. J'imagine que leur tristesse, leur déception, parce que ce qu'ils ont montré dans les matchs amicaux, où on a gagné 3 matchs sur 4, donc c'était vraiment de très très bon augure, surtout 3 matchs de suite, quoi. C'est un rêve un petit peu qui s'envole, mais il y a d'autres rêves à aller chercher.
Propos recueillis par Yoen Gourlet. La flamme de la fierté ivoirienne, elle pourrait en revanche se rallumer avec la performance de Zeina Bansé. La chef a démarré le plus long marathon de cuisine au monde. Elle espère ainsi rentrer dans le Guinness des records, une performance qu'elle avait déjà réalisée en décembre dernier, mais qui avait été invalidée par le jury à cause d'un problème de captation vidéo. Cette fois, Zeina Bansé ne compte pas manquer l'occasion, Binta Diagne.
Il est 19h42, Zeina Bansé, casquette et tablier orange, démarre son marathon culinaire. Devant elle, il y a plusieurs bassines de légumes. La chef cuistot épluche les oignons. Elle est concentrée sur ses recettes.
Je veux valoriser d'abord la culture ivoirienne, les mets ivoiriens. Donc c'est que les plats ivoiriens que je veux faire. Toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire seront représentées.
À l'extérieur de cette cuisine parée de baies vitrées, plusieurs poignées de jeunes l'encouragent comme s'ils suivaient une compétition de football. Le titre de champion d'Afrique raflé par les éléphants de Côte d'Ivoire l'année dernière est toujours dans leur tête.
On a pris la canne, tu vois, on avait tout. Donc c'est le meilleur record, donc Zeynab, on est là pour elle. Si elle ne dort pas, non, on ne dort pas aussi. Hein.
Zeynab Bansé est soutenue par 58 bénévoles en charge notamment de la logistique, de l'hygiène ou de la sécurité. Parmi eux, Brice, un footballeur professionnel.
Nous sommes là pour défendre l'honneur du pays. Nous sommes là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout comme elle. Moi, je suis footballeur de métier. J'ai dû demander une permission auprès de mon coach, ma dirigeant, pour soutenir Zeynab Bansé.
Zeynab Bansé espère cuisiner non-stop jusqu'à mercredi, voire plus. Cette fois-ci, le Guinness des records suit la performance en ligne et en direct. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Bon, j'espère que ça vous a ouvert l'appétit. Julien Coquel-Rouem, RFI Matin, la suite, c'est avec vous.
Il en faut peu. Merci Paul Lonsin-Spinelli. À tout à l'heure.